sur la consommation de viande. Au Moyen-Âge, on se projetait dans le pays de Cocagne, on retrouve des tableaux dans la peinture flamande sous des montagnes de saucisses, une abondance de viande. Aujourd'hui, la projection sur l'alimentation du futur va être plutôt d'un recul des nourritures carnées et comment imaginer des produits de substitution qui vont prendre la forme parfois de steaks. Il y a eu des grandes discussions là-dessus sur des steaks au soja, mais on est dans cette perspective-là parce que, évidemment, on est dans un temps d'inquiétude par rapport à l'alimentation.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des voitures volantes, le bug de l'an 2000, des gélules en guise de repas, des robots partout, la fin du monde. Dans l'histoire de notre humanité, le futur a toujours tantôt connoté un joyeux progrès lancé vers l'avenir, tantôt la tétanisante peur de l'inconnu. Utopie ou scénario catastrophe, comment avoir aujourd'hui une vision réaliste et apaisée de l'avenir ? Sur quels critères imaginer et préparer la vie de demain sans se fourvoyer dans des délires fictionnels absurdes ? Et dans tout ça, comment se nourrit-on demain ? En matière d'alimentation, nos prédictions du futur ne font pas franchement rêver. Dans l'imaginaire collectif, les assiettes à venir sont souvent mornes, la technocratie nous fait gober des gélules et la convivialité semble s'être évaporée dans le règne des machines. Est-ce pourtant vraiment comme cela que notre humanité s'apprête à se nourrir ? Les exercices d'anticipation sont souvent vains et servent rarement à plus qu'à nous divertir à travers des visions stéréotypées du futur. Utilisons plutôt ici le futur comme une astuce rhétorique pour nous interroger sur le présent. En quoi imaginer notre alimentation à venir raconte-t-elle des choses sur nos manières de manger aujourd'hui, nos angoisses et nos fantasmes culinaires ? Notre vision futuriste de la bouffe a-t-elle toujours été la même au cours de l'histoire ? Et d'abord, parler de nourriture de demain, ne serait-ce pas au fond déjà aborder les défis d'aujourd'hui si l'on veut continuer à pouvoir nourrir toute la planète ? Dans ce premier épisode de cette mini-série, nous allons nous plonger dans les images que l'humanité a nourries de l'alimentation du futur au cours de l'histoire. En quoi la culture populaire, films, romans et bandes dessinées a-t-elle participé à modeler des visions futuristes de la bouffe ? Dans cet épisode, je tends le micro à Philippe Mézy, spécialiste de l'histoire des consommations, du commerce et de l'alimentation en France et en Europe, du XVIIe siècle au XIXe siècle. Philippe Mézy est également l'auteur d'un article universitaire à propos de Robida, un caricaturiste et maître de l'anticipation à la fin du Xe siècle.
Je m'appelle Philippe Mézy, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne et je travaille depuis plusieurs années sur les thématiques de l'histoire de l'alimentation, des produits, du terroir.
J'ai commencé par demander à Philippe Mézy de nous parler des représentations passées qu'on a eues du futur en matière d'alimentation.
Je pense que pour réfléchir sur ces images de l'alimentation du futur, on pourrait distinguer deux temps. Le premier, je pense qu'il irait jusqu'au XVIIIe siècle. Et dans ce premier temps, on pense l'alimentation du futur, mais plutôt surtout l'alimentation de l'ailleurs, l'alimentation utopique. On ne se projette pas tellement dans le temps, on se projette plutôt dans un ailleurs, parce que le temps est avant tout un temps cyclique, celui des saisons, de la production agricole, qui se répète d'année en année. Donc on va imaginer, il va y avoir des images, c'est le pays de Cocagne, c'est les terres d'abondance, c'est le vin qui coule à flot et les nourritures grasses qui vont être associées à cet ailleurs, à cette utopie. Et ça, ça va être vraiment prévalent pendant plusieurs siècles, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, tout simplement parce que on est dans des périodes où ce qui compte avant tout, c'est se nourrir, c'est faire face à la faim, c'est arriver à conserver les aliments. Et l'idée est que finalement, tout au long de l'histoire, la projection sur le futur ou sur l'ailleurs utopique, finalement, il est souvent le reflet des préoccupations du temps. Et les préoccupations du temps, jusqu'au XVIIIe siècle au moins, dans une bonne partie de l'Europe et ailleurs, c'est avant tout de manger à sa faim, de parvenir à se nourrir, donc c'est ça qui est mis en avant, donc c'est l'image d'abondance. Puis à partir du XVIIIe siècle, on entre dans une autre période où on réfléchit, c'est la philosophie des Lumières, on réfléchit sur cette idée de progrès, sur cette idée de changement, d'aller vers un mieux-être. Et donc, à partir de ce moment-là, on va vraiment réfléchir, cette fois-ci, en se projetant dans l'avenir, sur une alimentation. Le but va être toujours de se nourrir, de mieux se nourrir petit à petit. Et puis, en avançant dans le temps, on retrouvera des préoccupations qui sont celles de la conservation des aliments, c'est-à-dire dépasser justement la saisonnalité. Et l'alimentation du futur sera une alimentation qui libère le temps du cuisinier, de la cuisinière, du temps pour le travail et pour l'activité des femmes, qui va faciliter le travail dans la cuisine à travers des nouvelles techniques. On est vraiment dans un autre processus à partir de ce moment-là. Donc, il y a vraiment, à mes yeux, deux temps très différents. Un premier temps de l'ailleurs et l'utopie, un second temps véritablement vers l'avenir.
Et selon vous, à quoi sert cette alimentation du futur? Qu'est-ce que ces projections nous permettent de réaliser exactement dans les sociétés qui les ont hébergées, ces représentations?
Ces représentations de l'alimentation du futur s'appuient toujours sur les transformations du temps. Elles en sont une projection à plus long terme. Donc elles ne naissent pas de rien. Elles servent à se projeter sur soit un idéal, c'est celui notamment au Moyen-Âge, au temps des famines ou encore au XVIe siècle, un idéal finalement de l'abondance. Il suffit de penser à Rabelais, à Pantagruel, à Grand Gousier. On est dans un royaume où la nourriture est très riche. C'est très riche pour l'époque, ça veut dire très grasse, avec des produits comme la viande, le gibier qui sont rares pour une grande partie de la population. Donc l'image, c'est une projection vers un idéal de nourriture et qui est finalement éloigné de la réalité du quotidien. Et puis, il y a une deuxième projection qui est liée cette fois-ci à l'idée de parvenir à quelque chose qui est de l'ordre du progrès dans les méthodes de conservation. Et souvent, la réflexion sur l'alimentation du futur, c'est de parvenir techniquement à avoir à disposition plus de produits, des produits variés, de pouvoir conserver des produits montants. Et on retrouve ça à différentes époques, hein. C'est l'idéal de manger des fruits frais en plein hiver, d'avoir de la glace en plein été. On est dans ces logiques-là. Donc, il y a une volonté de dépasser les contraintes dans la projection sur l'alimentation du futur. C'est souvent ça qui prévaut. Et les contraintes n'étant pas les mêmes selon les périodes, selon les milieux sociaux et selon les époques, la projection va donc être un petit peu différente.
Donc, on a tour à tour des projections qui vont nous placer dans une perspective de prospérité, d'abondance, ou alors donc de progrès lancé vers le futur, d'un avenir meilleur dans les deux cas. Est-ce que, je fais un petit détour par ce que l'on vit aujourd'hui, est-ce que quand on regarde les projections de l'alimentation du futur d'aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve encore ces deux idées ou sommes-nous plutôt tomber dans des visions plus catastrophiques de l'avenir? Notamment, je vous pose cette question parce que peut-être a-t-on aujourd'hui un regard plus sombre sur l'avenir qui attend notre planète d'un point de vue écologique?
La projection sur le futur est le reflet des préoccupations du moment. Et aujourd'hui, évidemment, les préoccupations vont être des préoccupations environnementales autour des questions de santé. Donc la projection sur l'alimentation du futur, elle reste dans cette logique-là, sauf que le progrès aujourd'hui n'est plus du tout entouré, comme au XVIIIe siècle, d'une image très positive, mais au contraire, il interroge. Et sans doute à juste titre. Donc, par exemple, sur la consommation de viande, au Moyen-Âge, on se projetait dans le pays de Cocagne, on retrouve des tableaux dans la peinture flamande sous des montagnes de saucisses, une abondance de viande. Aujourd'hui, la projection sur l'alimentation du futur va être plutôt d'un recul des nourritures carnées et comment imaginer des produits de substitution qui vont prendre la forme parfois de steaks. Il y a eu des grandes discussions là-dessus sur des steaks au soja, mais on est dans cette perspective-là parce que, évidemment, on est dans un temps d'inquiétude par rapport à l'alimentation. De la même manière, aujourd'hui, l'alimentation du futur ne se projette plus sur une contrainte dépassée des saisons avec la conservation, avec des techniques de culture sous serre ou autres qui permettent de dépasser la contrainte des saisons, mais au contraire, d'un respect de la saisonnalité. Donc, on voit bien que cette logique qui est réfléchir sur l'alimentation du futur mais à partir finalement des interrogations du présent, reste une dynamique et une perspective qui est toujours valable et on la retrouve à toutes les époques. C'est vraiment quelque chose qui me semble très important de comprendre. On a un dernier élément aussi dans la projection sur le futur, c'est la question du lien au territoire, de l'enracinement de l'alimentation par rapport à un espace, alors que au contraire, si on prend le XVIIIe siècle, quand on se projetait dans l'avenir, au XVIIIe siècle, c'était l'ouverture à des horizons très larges avec des produits venus de loin. On peut penser à l'époque au sucre, au chocolat ou au café. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans une perspective totalement différente.
Et aujourd'hui, quand on pense à l'alimentation du futur, alors y compris même si ce sont des images un peu téléphonées, un peu des images que l'on va retrouver dans des films, des images un peu clichés, mais spontanément, on va avoir en tête des gélules, des assiettes un peu mornes finalement, ou alors des jus rapides à avaler pour simplement avoir assez d'énergie pour tenir une journée.
Il y a une projection sur effectivement une alimentation qu'on pourrait qualifier d'utilitariste, c'est-à-dire source d'énergie, comme vous le dites. Mais cette projection-là, cette perception, cette image-là de l'alimentation du futur, elle existe déjà au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'industrie, et déjà, on se projette sur des aliments utilitaires. Ça commence déjà au début du 19e siècle avec la mise en place des conserves, de la pertisation. C'est l'alimentation du futur en ce début du 19e siècle, quand apparaît la possibilité de mettre des tomates en conserve et de pouvoir les consommer tout au long de l'année, dans une logique finalement qui est utilitaire. On va avoir plus tard, dans la seconde moitié du 19e siècle, avec le développement de l'industrie alimentaire, une projection sur le futur qui présente des aliments desséchés, capables de se conserver, et puis aussi un équipement de la cuisine qui a pour but de libérer du temps. Mais si on pense aussi au 20e siècle, un film de Jacques Tati comme Mon oncle, on est dans les années 1950, la projection sur l'alimentation du futur qu'on voit dans ce film, c'est l'idée du tout automatique, que finalement la cuisine n'est plus ni un espace de partage, l'alimentation n'est plus une source de plaisir, etc. Elle est dans une logique purement utilitaire, avec une autonomisation des pratiques de production, avec l'utilisation de différents ustensiles ménagers. On est en 1950 et on a cette projection-là sur le futur à travers le film de Jacques Tati.
Alors, donc, puisqu'on parle du 19e siècle, peut-être qu'on peut avancer encore un petit peu et parler de la fin du 19e siècle, notamment avec la figure d'Albert Robida, à propos de qui vous avez écrit.
Alors, Albert Robida est vraiment un personnage très, très intéressant. Il est né au milieu du 19e siècle, en 1848. Et il est souvent présenté comme vraiment l'un des symboles de la littérature d'anticipation qu'on retrouve à ce moment-là. À la même époque, vous avez Jules Verne qui écrit un certain nombre d'ouvrages. Albert Robida, il est journaliste, il est aussi caricaturiste, il a vraiment le profil de ces auteurs multiples de la seconde moitié du 19e siècle. Et il publie, donc on est en 1883, un roman qui s'intitule « Le 20e siècle » où il se projette donc dans le Paris, d'un Paris imaginaire, un Paris du futur, dans l'année 1952. Et il va décrire ce Paris de 1952 sous ses différents aspects et va aborder dans cet ouvrage la question de l'alimentation. Alors, il s'inscrit dans un mouvement vraiment général de littérature de science-fiction, finalement, qui est en train de naître à ce moment-là, mais qui aborde des choses très concrètes comme la question de l'alimentation. Et dans cet ouvrage, finalement, il part de ce qu'il a sous les yeux dans ces années 1800-1880 de révolution industrielle, de transformation du secteur alimentaire. Il part de ce qu'il a sous les yeux pour se projeter donc sur un 20e siècle dans lequel il va finalement présenter une alimentation qui devient une alimentation extrêmement dépendante d'une industrie agroalimentaire qui s'appuie sur des réseaux de distribution. Il y a une description très amusante finalement d'un hôtel particulier parisien qui est alimenté pour se nourrir par un système de tuyauterie et qui fait venir jusque dans la cuisine de la bisque de homard par exemple. Et s'il écrit et s'il se projette de cette manière-là sur une alimentation finalement qui est distribuée par ce biais-là, c'est parce qu'on est au moment où commencent à se développer les réseaux d'eau courante. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, il y a un épisode au cours de sa description où il y a des problèmes sur le réseau et que la bisque de homard est plus orientée vers la cuisine mais arrive dans la chambre de la propriétaire, ce qui provoque une inondation. Donc on a vraiment ce reflet-là. Et puis, derrière ces réseaux-là, qui correspondent à ce qu'il observe, sur lesquels il se projette, il y a aussi l'idée de transposer ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire le développement de la sidérurgie, dans le domaine de l'alimentation. Et il se projette sur des productions alimentaires à grande échelle, où on retrouve des usines qui produisent en grande quantité de la purée, par exemple, avec un marteau-pilon géant, qui s'inspire de ce qui existait à l'époque déjà au Creusot dans la sidérurgie. Donc on a cette projection-là. Donc on est sur l'idée d'une alimentation finalement industrielle, avec des usines qui servent à cela, à fournir la nourriture, mais on est aussi dans l'idée que derrière, cette alimentation est portée, cette industrie est portée par des grandes compagnies, sur le modèle des grandes compagnies qui peuvent se fonder dans le secteur de l'industrie à ce moment-là. Et on a cette projection donc sur ce Paris de 1950, où finalement, dans les cuisines, il n'y a plus de casseroles, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de cuisinière. Il suffit d'ouvrir un robinet pour obtenir sa nourriture. Donc on est à la fois dans de la projection, appuyée sur voilà ce qu'il a sous les yeux, mais en même temps, il faut pas l'oublier, on est quand même dans une littérature à visée aussi distractive. Donc on est dans l'idée de quand même de distraction. Il y a un côté un petit peu caricatural qui existe dans cette littérature, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment, dans ces années 1880, on voit la nourriture du siècle suivant et l'alimentation du siècle suivant avec des choses qui correspondent à ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, le fait qu'on ait de la nourriture qui soit apportée directement chez soi et qu'on ne cuisine plus chez soi, on est déjà un petit peu dans la logique de distribution de nourriture qu'on connaît aujourd'hui à travers toutes les ventes en ligne de nourriture. Mais effectivement, on n'est pas non plus allé jusqu'à la mise en place d'une tuyauterie généralisée pour fournir tous les foyers en nourriture.
Oui, j'allais justement vous demander d'identifier avec nous ce qui, dans les projections de Robida, se sont avérées vraies aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que dans ces projections, on peut y déceler aussi des peurs et des craintes et que du coup, Robida avait lui-même conscience à l'époque d'exagérer le trait ou alors peut-on au contraire imaginer que c'est quelque chose qu'il croit réellement
Dans ses projections, la question des compagnies alimentaires, par exemple, correspond vraiment à ce qu'il croit et à ce qui sera une réalité au XXe siècle. La concentration entre les mains de grands groupes, comme Nestlé ou Danone ou autres, de la production alimentaire, est assez bien perçue par Robida comme étant une orientation assez forte à partir du moment, justement, où on entre dans une industrie agroalimentaire. Ce qu'il perçoit aussi assez bien, c'est ce qui sera aussi la réalité de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la volonté dans les foyers de se libérer du temps, en particulier du temps pour les loisirs, et donc de faire appel à des moyens de s'approvisionner, des moyens de se nourrir, qui sont beaucoup plus faciles avec des nourritures déjà préparées. Alors, en revanche, ce qu'il n'anticipe absolument pas, mais c'est logique parce que ça tient à ce qu'il avait sous les yeux, c'est toutes les transformations techniques qui sont liées à la conservation des aliments au XXe siècle, notamment tout ce qui est production surgelée, ce genre de choses-là, développement du froid artificiel, ce sont des choses que dans son ouvrage, le XXe siècle, il projette assez peu et qui pourtant vont être évidemment des révolutions essentielles au cours du XXe siècle. Donc il est à la fois dans une perception assez juste qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a sous les yeux, mais évidemment il y a certains aspects qu'il ne perçoit pas. Et puis le dernier élément, c'est dans le rapport à la nourriture. On sent dans son œuvre, lorsqu'il se projette sur l'année donc 1952, une projection sur l'idée que l'alimentation finalement, ne serait plus source de plaisir, serait purement dans une logique utilitaire. Or, malgré tout, et en particulier dans la culture française, même s'il y a eu des évolutions, il y a quand même un attachement à l'alimentation. Et aujourd'hui, on le voit bien, sur les années les plus récentes, il y a une valorisation de la cuisine, de l'acte de cuisiner, des produits, etc. Si on pense, par exemple, à toutes les émissions culinaires qu'on peut retrouver sur les écrans de télévision. Donc, il y a des choses qui ne sont pas linéaires et que ne percevait pas, évidemment, Robida en 1883.
Finalement, quand on regarde aujourd'hui notre approche de la nourriture, on peut s'apercevoir que notre époque, elle héberge plusieurs types de comportements assez antagonistes. On parle beaucoup de convivialité, de commensalité, du fait de partager des moments à table et l'acte de cuisiner à la maison, donc dans son acception plus domestique, est qu'aujourd'hui quelque chose qui peut être valorisé, même comme une activité culturelle. Les gens, même pour leurs anniversaires, peuvent s'offrir des bons pour aller faire une mozzarella ou brasser leur propre bière. Donc on voit bien que la nourriture est une activité qui peut être vue comme plaisante et pas juste comme une tâche domestique. Et en même temps qu'on dit ça, la nourriture, c'est aussi, justement, pour beaucoup de personnes, une tâche domestique et on cherche à amoindrir la place de l'acte de préparer à manger avec ses services de livraison à domicile. C'est le batch cooking qui permet d'optimiser le temps de préparation en cuisine. Et peut-être que tout ça, finalement, ce sont des évolutions un peu complexes qu'on n'a pas forcément pu repérer quelque part dans les projections passées de l'alimentation du futur.
Il y a vraiment la question de comportements qui sont finalement différenciés. Et les projections qu'il y avait dans le passé sur l'alimentation du futur étaient souvent des projections qui interrogeaient la question de l'égalité dans l'alimentation. C'est vraiment une question qu'on va retrouver, par exemple, chez Rousseau à la fin du XVIIIe siècle. Et sa projection, lui, sur le futur est justement une recherche de simplicité dans l'alimentation qui permettrait à chacun de manger correctement dans une logique de simplicité, dénonçant le luxe du XVIIIe siècle et notamment le luxe de la noblesse qu'il a pu observer. Et on a à la même époque à peu près un ouvrage qui est très intéressant, c'est en 1771, un livre de Louis-Sébastien Mercier qui s'appelle « L'an 2440 », donc une projection sur le Paris de 2440, donc on est en 1771, et lorsque Louis-Sébastien Mercier aborde cette alimentation du futur, il insiste toujours sur l'idée que le progrès, à ses yeux, c'est une égalité devant l'alimentation avec une fixation des prix qui permet notamment sur le pain à chacun d'accéder à l'alimentation, la constitution de stocks de réserves alimentaires qui permet à chacun de se nourrir. Donc on voit bien que la question de la diversité des comportements, est assez peu perçu dans la projection sur l'alimentation du passé, parce que justement, le progrès ou l'idéal pour les périodes antérieures du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, c'est que chacun puisse manger une alimentation de qualité, etc. Donc il y a une idée d'égalité dans l'abondance et dans l'accès à la nourriture, et assez peu une idée de logique de différenciation dans les comportements, comme on peut l'observer de nos jours.
On vient de parler de Robida, tout à l'heure vous avez mentionné Jacques Tati. En quoi, selon vous, la culture populaire, à travers les films, les romans et même la bande dessinée, en quoi cette culture populaire participe à modeler les visions futuristes que l'on a de la nourriture, nous, dans la société ? Est-ce que nous, en tant que lecteurs, spectateurs, consommateurs de ces œuvres culturelles, avoir accès à ces projections change vraiment notre perception à nous, ou est-ce que ces œuvres culturelles sont simplement le reflet, parfois un peu exagéré, de craintes collectives ?
Je pense que on est, quand on parle de films, de littérature ou de bandes dessinées, et qu'on évoque la question de l'alimentation, que ce soit celle du passé ou celle du futur d'ailleurs, on est toujours dans une projection. Ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui des films évoquent l'alimentation du passé, on est dans une projection sur l'alimentation du passé, mais qui nous renvoie finalement à la réalité d'aujourd'hui et conduit un petit peu à mythifier le passé. Et dans le même sens, la projection sur l'alimentation du futur nourrit un imaginaire. Il y a un imaginaire de l'alimentation de la Renaissance, comme il y a un imaginaire de l'alimentation du futur. Si on prend un film qui avait eu quand même un grand succès en 1976, L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès et Coluche, on est dans les années 70, donc vraiment au moment où l'industrie agroalimentaire se développe, l'équipement des ménages est de plus en plus important, et on voit dans ce film une projection sur une alimentation du futur qui est ici incarnée donc par l'entreprise Tricastin, qui est une alimentation sans goût, totalement standardisée, qui correspond à des transformations et qui révèle effectivement les craintes et qui a contribué en quelque sorte à façonner la perception qu'on peut avoir de l'industrie agroalimentaire. C'est très clairement à travers ce type de représentations qui sont appuyées sur la réalité en partie, mais qui sont quand même une version ici humoristique et très, très exagérée, mais ça façonne la perception qu'on peut avoir d'un certain nombre de phénomènes. Donc, l'alimentation, c'est fait effectivement d'ingrédients, de nourriture, mais c'est fait aussi énormément d'imaginaire, et tout ce qui relève de la fiction, quel que soit le support, façonne ce qu'on pourrait appeler les cultures alimentaires du temps, et ça veut dire les repères qu'on peut avoir passent énormément par ces projections imaginées sur le futur.
Et alors, ces projections imaginées sur le futur, quelles sont-elles aujourd'hui ? Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous fournir pour illustrer quoi ressemble cette pratique ?
Alors, aujourd'hui, on est vraiment à une période où on est sur un tournant qui rend difficile l'évaluation ou l'analyse finalement de ce que sera les perceptions du futur, parce que on est finalement dans un moment où on va valoriser d'un côté ce qui va relever de la tradition, du savoir-faire, du local, tous ces discours-là autour de la nourriture. Et on est juste aussi, quelques années après, tout un mouvement qui portait aussi la logique d'une cuisine moléculaire, d'une artificialisation très forte de la cuisine, avec une déconnexion entre le produit, son apparence, son goût, etc. Donc on avait des logiques contradictoires, je dirais, sur la dernière décennie, qui permettent difficilement d'envisager la manière dont va se construire tout cet imaginaire de l'alimentation du futur. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent quand même un regard plutôt fait de crainte, de contraintes d'adaptation par rapport aux transformations de l'environnement qui prévaut. On est beaucoup moins, me semble-t-il, en tout cas, dans l'idée d'une utopie, c'est-à-dire au sens où on irait vers une alimentation très, 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 très différente, très innovante sur le plan technique ou sur le plan des saveurs. On est quand même plus dans une projection sur le futur qui s'inscrit dans un ancrage dans le passé, au final. On est plutôt dans la réinvention de la tradition plus que dans l'innovation pure, dans ce qu'on peut saisir sur la projection sur l'alimentation du futur.
Parce que le futur, quelque part, nous fait peur et qu'il est peut-être plus rassurant de se tourner vers une époque révolue et donc une époque qu'on ne peut plus abîmer, qui est celle du passé, et donc des patrimoines familiaux, des recettes de terroir.
Avec une grande mythification, c'est-à-dire que c'est un passé réinventé. C'est pas le passé, c'est la perception qu'aujourd'hui on a du passé et qu'on réinvente, qu'on projette. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la projection sur l'alimentation du futur, elle se nourrit aussi du passé, d'un passé mythifié qu'on cherche à reproduire. On peut penser à tous ces lieux de restauration, ces lieux de consommation qui essayent de renvoyer à une France du petit commerce, une France des années 50, etc., des halles ou des choses comme ça, de manière assez artificielle, sans que forcément ça corresponde à la réalité du passé. Mais je pense que, en effet, il y a un côté très rassurant face à un avenir qui, de manière globale, peut être perçu comme beaucoup plus inquiétant. Et c'est la question du rapport au progrès qui est ici posée, Il y a beaucoup de discussions et de réflexions sur la notion de progrès aujourd'hui. On remet en cause la question de progrès telle qu'elle a émergé au XVIIIe siècle avec les Lumières. On voit bien qu'on est à ce tournant-là, sans doute.
Notre discussion me donne envie de faire un parallèle avec ce qu'on peut observer dans la pâtisserie. Mais bon, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs trouver plein d'autres illustrations de cela. Mais j'ai le sentiment qu'en ce moment, quand on regarde la scène de la pâtisserie, la scène pâtissière, on voit bien un regain d'intérêt pour ces recettes d'antan, ces gâteaux de voyage, donc les madeleines, les marbrés, les recettes de grand-mère, en fait, les gâteaux qui ne mentent pas sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont très lisibles au premier coup d'œil, on comprend de quoi ils sont faits. Et j'ai l'impression que ça tranche très largement avec une pâtisserie qu'on observait il y a plutôt, on va dire, moins de 10 ans, où on était vraiment à fond dans les trompe-l'œil, dans la technicité. Il y avait une démonstration de style très importante dans la pâtisserie, un peu comme si, à travers un travail d'orfèvre sucré, on pouvait montrer tout ce que l'humanité avait réussi à faire de plus précis en matière de pâtisserie. Et aujourd'hui, on retrouve peut-être le geste un peu imparfait du boulanger ou du pâtissier.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. On était vraiment dans la logique à la fois d'artificialisation, c'est-à-dire vraiment pousser au maximum cette artificialisation, ce côté créatif. Et c'était aussi dans une logique de montrer une maîtrise technique, vraiment dans l'idée de technicité absolue. Aujourd'hui, on est dans un retour finalement à une question de confiance qui est très importante dans le domaine de l'alimentation et comment finalement l'alimentation, que ce soit au niveau de la production, de la cuisine, de la transformation, etc., a besoin de recréer de la confiance par rapport aux consommateurs. Et je pense que ça passe effectivement par ce type de processus-là. Et l'un des enjeux, justement, d'avenir, c'est d'arriver à recréer cette confiance sur les questions de traçabilité des produits. C'est vraiment quelque chose de très important.
J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Mézy. Donc, vous avez écrit cet ouvrage aux éditions Armand Collin, « L'alimentation en Europe à l'époque moderne, manger et boire », du 16e au 19e siècle. En quoi, peut-être, a-t-on besoin, selon vous, ou pas, du passé pour imaginer le futur de l'alimentation? Est-ce qu'on a besoin, pour essayer de faire des projections du futur, de bien connaître aussi le passé de l'alimentation?
Oui, on dit bien que l'histoire ne repasse jamais les plats, mais je pense que, très clairement, le regard sur l'alimentation du passé et l'histoire de l'alimentation permet d'avoir des outils de réflexion. Des outils de réflexion, justement, sur la nécessité de comprendre comment le contexte, qui est variable selon les époques, joue un rôle déterminant dans les orientations de l'alimentation, dans les choix et dans la projection sur le futur. Par exemple, la question des crises alimentaires qui se posent aujourd'hui, alors ça va des crises sur la qualité de l'alimentation, style crise de la vache folle, jusqu'à des crises d'approvisionnement, eh bien, ce type de crises qui ont pu exister par le passé, lorsque on porte un regard sur l'histoire de ces périodes-là, offre des outils d'analyse qui me semblent utiles pour les acteurs d'aujourd'hui. Et l'intérêt du travail de l'historien de l'alimentation est certes de travailler sur des périodes éloignées, mais évidemment, en travaillant sur ces périodes éloignées, il est aussi pris, je dirais, dans les réflexions et les enjeux de son temps. Et donc, son travail de recherche, son travail scientifique peut nourrir la réflexion des acteurs, me semble-t-il. Et par exemple, sur la question du XVIIIe siècle, on a déjà un discours qui existe au XVIIIe siècle, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, autour de la question de l'origine des aliments, question qui se pose beaucoup aujourd'hui dans les questions de traçabilité. Et on voit bien comment, dans un contexte totalement différent qui est celui du XVIIIe siècle, il y a déjà des enjeux de valorisation de l'origine, des produits, de la question de l'authenticité. Donc, ça me semble toujours utile de comprendre les mécanismes pour ensuite peut-être mieux percevoir les enjeux contemporains.
Aujourd'hui, la question de savoir comment nourrir une population mondiale qui devrait avoisiner 10 milliards d'êtres humains en 2050 fait désormais partie du lot commun des chercheurs, qu'ils soient démographes, agronomes, économistes ou sociologues. Des institutions internationales également, des responsables politiques et des agriculteurs, comme l'indique le chercheur Pierre Feuillet. Dans le prochain épisode de Bouffon, nous verrons comment cette question est aujourd'hui abordée, notamment d'un point de vue des protéines alternatives. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.